On va commencer par un petit exercice de calcul mental. Quel âge aurez-vous en 2045 ?
J'aurai 101 ans.
Je vois qu'il y en a qui se disent je serai peut-être pas là. C'est dommage pour vous parce que vous allez rater
la prochaine émission.
Vous allez rater la vie éternelle en fait. Si on en croit Ray Kurzweil, qui est un des papes du transhumanisme, en 2045, c'est la vie éternelle qui est promise. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que vous savez encore vous servir de votre cerveau pour faire une opération. Et alors, cette vie affranchie de la mort, ben, on la voit, on ne sait pas trop, cette vie qui nous promette, on ne sait pas très bien comment ça va se présenter. Est-ce que c'est l'homme qui deviendra une machine? Est-ce que c'est la machine qui deviendra homme? En fait, toute cette réflexion, elle s'insère dans la théorie de l'évolution en disant bon, ben, l'homme a évolué. Maintenant, son évolution, c'est à lui de la prendre en charge. Donc, vous aurez le choix, en fait, entre être un homme augmenté, une machine hominisée. Mais enfin, on ne vous obligera à rien, vous pourrez toujours rester comme vous êtes, vous serez un chimpanzé du futur. Donc, cette réflexion, elle émane de savants fous, de charlatans, d'une secte, de passionnés de science-fiction, ou peut-être un petit peu un mélange de tout. Alors pour ça, on va se pencher sur ce qu'est ce mouvement transhumanisme, les moyens qu'il se donne, en quoi il interroge la science, quel est l'enjeu social, avant de conclure. Donc ce mouvement transhumanisme, il est né tel qu'il est connu aujourd'hui, il est né dans les années 80, au sein de la cyberculture américaine. En 98, on a la création de l'Association mondiale transhumanisme, qui est devenue, qui s'appelle maintenant une Humanity Plus. En 2002, on a un rapport qui est célèbre au sein du monde transhumanisme. C'est le rapport sur les NBIC, donc N pour nanoscience, B pour biotechnologie, I pour intelligence artificielle et C pour science de la cognition, c'est-à-dire science du cerveau. Donc c'est un rapport qui a été fait à la demande du département du commerce américain et de la Fondation nationale pour les sciences américaines. Et donc ce rapport conclut que l'amélioration des performances humaines devient possible par l'intégration des technologies. Donc ces quatre technologies NBIC doivent converger, et le jour où elles convergeront, on aura émergence donc d'une intelligence qui ne sera plus humaine. En 2004, apparaissent plusieurs. J'ai noté que quelques dates, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est pour donner un peu une idée de tout ce qui tourne autour de cette pensée transhumaniste. Donc, des think tanks universitaires qui militent pour l'amélioration de la condition humaine via la technologie. En 2008, création de l'Université de la Singularité. Donc cette université, c'est un incubateur de start-up qui donne des conférences pour promouvoir les progrès technologiques conduisant à la singularité. Cette singularité, donc, c'est l'émergence d'une intelligence non humaine. 2009, Fondation pour la recherche, donc financement, lobbying et recherche concernant la médecine régénérative, les organes artificiels pour empêcher les maladies liées au vieillissement. Vous voyez que ça touche un peu tous les secteurs. Tout ça, c'est aux États-Unis. En 2011, Initiative 2045, ça c'est un projet d'un milliardaire russe qui a pour idée donc de transférer l'intégralité de sa conscience dans un ordinateur. Donc il finance des recherches pour arriver à cela. des figures. Donc ce mouvement est né en Californie, on a vu en Californie du Sud. Donc au début, c'est au sein donc, du milieu de la cyberculture. Donc le premier FM 2030, ça avait choisi ce nom-là parce qu'il pensait devenir éternel en 2030. Manque de peau, il est déjà mort. On en a d'autres, donc John Spencer qui a une agence de voyage dans l'espace, Natasha Vitamore qui est une artiste et son mari. Enfin, vous appréciez les noms aussi qu'ils se sont donnés. Donc à côté de ce milieu de la cyberculture, on a aussi dans les années 90 des scientifiques qui sont reconnus dans le monde universitaire, comme les philosophes Nick Bostrom qui est professeur à Oxford, David Pearce, professeur aussi, James Hughes qui est aux États-Unis, et puis le célèbre Richard Dawkins qui est un biologiste. Donc c'est un mouvement qui est sérieux, il a une caution universitaire bien assise. Donc l'association Transhumanisme Mondial, elle prône le droit moral pour ceux qui le désirent de se servir de la technologie pour accroître leur capacité physique, mentale ou reproductive et d'être davantage maîtres de leur propre vie. Voilà la ligne de conduite. Et leur souhait, c'est de s'épanouir en transcendant les limites biologiques actuelles. Donc ça, c'est des écrits de 99. Donc pour arriver à ça, il y a un programme qui est basé sur le fait que l'être humain n'est qu'une forme transitoire de l'évolution. Il va évoluer, et tant qu'à évoluer, autant choisir comment on veut qu'il devienne. Donc c'est passer d'une évolution subie à une évolution choisie. Alors pour ça, et bien sûr, c'est devenir plus fort, plus intelligent, plus heureux, et vivre plus longtemps, voire indéfiniment. Donc plus fort, pour être plus fort, il faut zéro défaut génétique. Donc ça implique de contrôler, ça implique trier les embryons, contrôler de façon à ce qu'un homme qui vient au monde ait zéro défaut génétique. Plus résistant, avec des sens plus développés ou des sens nouveaux. Donc là, on arrive au corps 2.0, que nous dit donc Kurzweil en 2003. Plus intelligent, on va commencer par du dopage cognitif, donc avec des médicaments qui vont permettre concentration accrue. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est des puces électroniques qui peuvent être implantées dans le cerveau. Plus heureux, là aussi, on va faire appel aux procédés neuropharmacologiques, c'est tellement plus simple. Enfin bon, si on est toujours heureux parce qu'on prend des médicaments qui rendent heureux, on peut se demander si on est vraiment heureux, parce que si on vit toujours dans le même état, ça peut poser un peu un problème quand même. Et puis capable de vivre plus longtemps, voire indéfiniment. Donc ça, c'est la visée ultime, avec des recherches sur les mécanismes de vieillissement, et puis bien sûr l'hybridation homme-machine qui fait rêver tout ce petit monde-là. Et tout ça dans un système qui est dans un grand libéralisme qui concerne toutes les technologies d'amélioration et bien sûr au nom des droits et des libertés individuelles. Ce processus, il le voit par étapes, donc en se basant du fait que le corps, de toute façon, il est limité. Déjà il est sexué, ce qui implique qu'on a une identité, donc masculine ou féminine, donc il n'y a pas de raison d'être bloqué dans une identité, on pourrait changer d'identité quand on en a envie. Il est mortel, donc il est condamné à une finitude, là aussi c'est une limite qui n'est pas acceptable. Il est incontrôlable puisqu'on peut être soumis à des pulsions qui échappent à la rationalité de l'esprit. Donc, si on voit notre homme aujourd'hui, la première étape, ça va être l'homme réparé. Donc, c'est l'homme 1.0. L'homme réparé, c'est par exemple, comment il s'appelle, ce coureur qui... Pistorius, c'est ça?
Oui.
Oui, donc qui a malheureusement perdu ses jambes et auquel on a fait des prothèses qui lui permettent de courir bien plus vite qu'un humain que vous et moi. Mais enfin, ces prothèses, il ne les met que pour courir. Le reste du temps, il a d'autres prothèses qui fait qu'il marche comme un homme normal. L'homme augmenté, ça c'est la seconde étape, l'homme augmenté, donc avec augmentation des capacités physiques, cognitives, et puis une amélioration génétique. Et puis enfin, le summum, c'est d'arriver à l'homme 3.0, l'homme transformé, mais là on ne sait pas trop bien à quoi ça va ressembler. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il sera libéré de la tyrannie de la chair, il sera immortel, il ne pourra pas mourir. Enfin, forcément, s'il est inoxydable, ça sera plus dur. Il y aura une dématérialisation de son rapport au monde. Et tout ça, c'est basé sur le fait que l'intelligence artificielle qui sera mise en place à cette époque sera 1 milliard de fois plus puissante que les 8 milliards de cerveaux humains réunis. Tout ça, ça intéresse aussi beaucoup les milieux de la défense, les milieux militaires, qui travaillent actuellement, donc aux États-Unis, sur l'intégration des technologies et des biotechnologies à l'humain, afin d'accroître ses fonctionnalités ou en créer de nouvelles. Actuellement, il y a des recherches sur les sens, avec des prothèses rétiniennes pour les aveugles, la possibilité de voir la nuit, de voir à 180 degrés, de sentir tactilement à distance, donc, et de communiquer directement via le cerveau par des puces électroniques qui sont implantées dans le cerveau. Les recherches sur la mémoire, donc avec des meilleures connexions pour une mémoire globale. Les recherches sur la motricité, donc en particulier avec les exosquelettes, vous avez peut-être déjà vu, qui sont en service pour l'armée américaine, qui permettent de porter de lourdes charges. Des recherches sur l'apprentissage et les émotions. Alors cet homme augmenté, il y en a déjà un qui se revendique d'avoir franchi cette étape. C'est un homme qui est né avec un problème qui fait qu'il ne voit qu'en noir et blanc. Donc il s'est fait implanter un cyborg qui va capter les couleurs et les transmet sous forme d'ondes à son oreille interne. Donc il va entendre ces ondes, ce qui fait qu'il entend les couleurs. Il entend les couleurs, donc nous on voit les couleurs dans le visible, on ne voit pas l'ultraviolet ni l'infrarouge. Mais lui, il a des ondes qui lui permettent d'entendre, donc de voir l'ultraviolet et l'infrarouge. Donc il en conclut qu'il est déjà augmenté par rapport à nous tous. Alors les moyens pour tout ça, donc ces fameuses NBIC, juste je vais parcourir très rapidement pour vous dire les exemples de ce que ça peut recouvrir. Donc les nanotechnologies, nano c'est petit en grec, et en science donc nano c'est la puissance 10⁻⁹, donc c'est 1 milliardième. Pour vous ayez une idée de ce que ça représente au point de vue d'une échelle, si vous prenez un cheveu entre vos doigts, vous regardez le diamètre de votre cheveu, vous le comparez à votre taille, il est exactement le même rapport entre le diamètre de votre cheveu et votre taille qu'entre une nanoparticule et le diamètre de ce cheveu. Donc, c'est un rapport d'échelle de 25 000. Donc ces nanoparticules, on n'est pas du tout dans la miniaturisation. La miniaturisation, c'est par exemple, c'est la sculpture, c'est quand on enlève de la matière pour arriver à quelque chose de plus petit. Là c'est l'inverse, ça se développe grâce au microscope à effet tunnel. En fait c'est un Lego, c'est-à-dire qu'on va travailler atome par atome pour construire des molécules. Et donc on arrive à faire des nanoparticules qui sont de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de microns, donc qui sont de l'ordre du vivant. C'est-à-dire que ces particules, elles sont de la taille de virus, de bactéries, donc elles ne sont pas reconnues par le corps comme étant étrangères. Donc on va les utiliser pour faire, par exemple en médecine, des nanovecteurs qui vont avoir la taille des particules naturelles, qui vont, donc elles comprennent un cœur dans lequel on injecte le médicament, et puis une couronne qui va les rendre capables de tromper l'organisme, qui va penser que c'est des particules naturelles. Donc ça, on va pouvoir aussi les faire une reconnaissance moléculaire, et on va pouvoir cibler le domaine d'action de ces particules qui sont très prometteuses, par exemple pour traiter des cellules cancéreuses. Alors les transhumanistes, eux, disent que là déjà on a franchi la limite entre la matière et le vivant, puisque ces nanoparticules, elles ne sont pas vivantes bien sûr, mais elles peuvent être reconnues par le vivant comme faisant partie de lui-même. Les biotechnologies, donc vous avez sans doute entendu parler récemment donc de la fabrication donc des ciseaux génétiques CRISPR-Cas9, donc qui permettent en fait de faire un copier-coller, on va dire, au niveau des gènes, de remplacer dans un gène malade par une séquence saine. Donc ça aussi, ça peut, bon, pour l'instant c'est utilisé encore juste en laboratoire, mais les transhumanistes voient dans cette nouvelle découverte une opportunité pour fabriquer un nouvel ADN, c'est-à-dire implanter dans un gène humain un gène animal, par exemple le gène de l'écholocation de la chauve-souris, et puis comme ça on pourrait aussi avoir l'écholocation de cette chauve-souris, c'est-à-dire sentir en écho ce qui est quand on se rapproche d'un mur, etc. L'intelligence artificielle, là, vous avez, il y a l'année dernière, donc au mois de mars, il y a eu entre l'ICEDOL et AlphaGo un jeu d'une partie de Go. Et le AlphaGo, donc l'intelligence artificielle de Google, a gagné sur 5 parties, on a gagné 4. Donc les journaux en ont conclu que l'intelligence artificielle était déjà plus intelligente que l'homme, puisqu'elle le gagnait, c'est le champion du monde. Bon, mais qu'est-ce que c'est que AlphaGo ? Ben, AlphaGo, c'est quand même des conducteurs électriques avec des électrons qui passent dedans. Donc même si le champion du monde a été humilié d'être battu par AlphaGo, il faut remettre les choses à leur place. Qu'est-ce que c'est que donc AlphaGo, cette intelligence artificielle, ben, c'est des codes qui ont été mis en place par l'homme. Donc s'il y a une erreur, l'erreur elle est humaine. C'est une erreur de code, c'est une erreur d'algorithme, une erreur dans la programmation. La machine, elle ne peut pas se tromper. Dans tous les cas, AlphaGo a été programmé pour gagner. Si on le programme pour perdre, il perdra tout le temps. Mais c'est pas pour ça qu'il sera moins performant. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Bon, là, c'est une intelligence artificielle qui est particulière, puisqu'elle procède par apprentissage, donc c'est vraiment une performance technique des ingénieurs de Google. Mais cette intelligence est différente de l'intelligence humaine. S'il n'y avait qu'une seule façon de jouer au Go, AlphaGo aurait gagné tout le temps, puisqu'il était programmé pour gagner tout le temps, mais le jeu de Go, il n'est pas univoque. Donc c'est ce qui explique qu'il y ait une partie sur laquelle il est perdu. Mais dans tous les cas, l'intelligence artificielle ne peut pas faire d'erreur au sens où nous, on parle d'erreur pour un homme. Parce qu'AlphaGo ne sait pas jouer au Go. Il sait faire ce qu'on lui dit, il ne sait pas jouer au Go. L'erreur n'a de sens que pour l'homme. Par contre, l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'elle nous dépasse en capacité de stockage et en vitesse de traitement de l'information. Donc, elle exerce une fascination qui va à l'encontre du lien entre l'âme et corps et qui conduit à mépriser le corps, cette fascination pour l'intelligence artificielle. Elle permet de résoudre des problèmes très complexes, mais elle ne peut pas choisir. Elle ne peut pas poser de concept. Alors, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, enfin, les transhumanistes parlent aussi de ça, qui pourrait remplacer nos ministres, etc., puisqu'elle serait infaillible. Mais dans tous les cas, si on dit, je vais choisir mon mari ou ma femme en utilisant l'intelligence artificielle, vous voyez bien la limite. Il ne peut pas choisir, il ne peut pas aimer, donc elle ne peut pas choisir au sens où un homme choisit. Les limites aussi de l'intelligence artificielle, ce qui peut être une force qui devient une limite, c'est de voir à quoi on peut la destiner, c'est-à-dire à assumer toutes les tâches qu'on n'a pas envie de faire. Reléguer les personnes âgées avec des robots, ça peut être très rassurant, mais on ne sait peut-être pas sûr que ce soit le plus épanouissant pour elles. Les sciences de la cognition. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la compréhension du fonctionnement du cerveau, qu'on a longtemps cru comme étant une entité entière, mais le cerveau, c'est une mosaïque de régions cérébrales qui peuvent être utilisées pour faire des tâches différentes. Les sciences de la cognition, elles ont permis, par exemple, de soigner les symptômes et non pas la maladie, uniquement ces symptômes de la maladie de Parkinson, dans certains cas, en implantant des électrodes pour lutter contre la manifestation de ces symptômes. Mais là aussi, les transhumanistes voient dans ces sciences du cerveau que le cerveau ne pourrait être assimilé à un ordinateur, quoi. Ce serait un ordinateur en viande et dans lequel la conscience ne serait qu'une circulation de l'information entre les différents neurones. Alors, la science, on peut voir qu'elle est mise en question dans les différents exemples que je vous ai donnés, déjà par des effets d'annonce qui souvent émanent de scientifiques eux-mêmes. Alors ces effets d'annonce, ils sont destinés, des fois c'est un peu de bonne guerre, à obtenir des financements, à attirer des étudiants, mais parfois il y a toute une idéologie qui se cache derrière. Si par exemple on parle de construire des machines à penser, c'est pas gratuit, ça sous-entend que la pensée n'est plus qu'un mécanisme électrochimique. Et puis le but, c'est de faire passer nos principes éthiques uniquement pour des habitudes comportementales. Lorsqu'on a parlé des cellules souches embryonnaires pour modéliser les pathologies liées à la maladie de Steiner, donc là on parle d'une question très complexe auquel personne ne comprend rien, mais on rajoute que c'est pour mettre au point des médicaments ayant potentiellement un effet thérapeutique. Alors thérapeutique, tout le monde est interpellé, et à ce moment-là, si ça peut soigner les gens, et bien les gens se disent qu'il faut le faire. Et le but de ces annonces, c'est d'utiliser l'embryon humain comme un matériau de laboratoire. Alors, est-ce que la science est coupable dans toutes ces questions-là? Parce que qu'on voit dans le transhumanisme une libération de l'humain qui s'affranchirait de ses limites corporelles, ou bien qu'on voit une destruction de l'humain puisqu'il s'affranchit de ses limites corporelles, dans tous les cas, qu'on penche d'un côté ou qu'on penche de l'autre, c'est qu'on se dit que c'est la science qui peut le faire. Elle est capable de franchir cette barrière entre la machine et l'homme. Donc, quelque part, c'est une caution scientifique qu'on prenne une position ou l'autre. La science, elle est vue de façon ambivalente. À la fois, on la voit comme un danger, il n'y a qu'à voir tout ce qui est fait autour des qu'on parle d'OGM, etc. Donc tout de suite il y a on la voit comme un danger, mais en même temps tout notre monde il est basé sur des expertises. On est devenu toute décision nécessite une batterie d'experts, et puis on parle de science alors qu'en fait la science elle-même aujourd'hui ça n'existe pas. Il y a des disciplines scientifiques, mais la science en tant que telle, je ne sais pas ce que c'est. Et donc c'est un des problèmes, ça veut dire qu'on se base sur ce monde d'experts, et puis donc qui devient le socle de la civilisation, et quand on a qui va remplacer la religion. Donc autrefois on demandait au curé si c'était bien ou pas bien, maintenant on va demander à l'expert. Donc en fait, c'est une mauvaise image de la science. La science, elle apporte des connaissances. La science, elle dit ce qui est, Elle ne dit jamais ce qui doit être. Et d'ailleurs, dans le transhumanisme, c'est la disparition de la pensée scientifique qui est programmée aussi. Parce que si vous réfléchissez à cette émergence donc, de cette intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, elle refuse toute explication. Elle accumule des tas de données, et à partir de ces données, elle va faire un raisonnement intuitif. Donc si je reprends ce que dit Étienne Klein, le physicien, c'est pas parce qu'on voit des grenouilles après la pluie qu'il pleut des grenouilles. L'intelligence artificielle, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'elle va, bon là je caricature, mais elle va procéder par des... c'est une intelligence inductive. L'intelligence artificielle, elle va jamais créer des concepts. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? C'est pas la science qui intéresse seulement les gens, c'est qu'il faut innover. On est dans le règne de l'innovation. On part du principe que notre monde est imparfait, donc on est dans une course en avant, et il faut innover ou disparaître. On ne sait pas à quoi ça va servir, mais dans tous les cas, c'est nouveau, donc il faut le faire. Et l'innovation, elle est sans finalité, si ce n'est que d'aller en avant. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a besoin d'une machine à promettre, donc dans ce monde qui va de plus en plus vite et qui est vide de sens. Et ça, c'est là que s'engouffre le transhumanisme. Une explication aussi au développement de ce mouvement, c'est la honte prométhéenne. C'est-à-dire qu'on est tellement fiers de nos ordinateurs qu'on se sent nul à côté d'eux. Donc ça, c'est une explication qui a été donnée déjà par un philosophe qui s'appelle Gunther Anders dans les années 50, donc bien avant toutes les questions que nous posent les questions de transhumanisme. Mais il dit donc que c'est la honte prométhéenne devant l'humiliante qualité de ce que nous avons fait. La honte de devoir notre existence à la différence des produits qui, eux, sont irréprochables parce qu'ils ont été calculés dans les moindres détails. Et nous, on est issus d'un processus aveugle, non calculé et ancestral de la procréation de la naissance. C'est sûr qu'à côté, on ne tient pas la route. Et puis, donc, ce complexe d'infériorité, pour le conjurer, il n'y a pas d'autre moyen que de devenir nous-mêmes semblables à ces dieux-machines, visés à déceler les possibilités de notre propre dépassement, donc dans un royaume de l'hybride et de l'artificiel. Donc, ce qui est le but, et qui nous guide, c'est ces machines. Donc, l'intelligence morale elle-même a maintenant été transférée de l'homme aux instruments. Donc, ce qui veut dire qu'on se soumet purement et simplement aux instruments et l'homme renonce de fait à sa liberté. L'enjeu social. Alors, se positionner vis-à-vis du transhumanisme. Il y a les bioconservateurs. Alors, les bioconservateurs, ils vont condamner l'usage des nouvelles technologies, sauf pour des fins thérapeutiques. Donc, ce qui permet de rétablir ou de restaurer l'organisme. Et là-dessus, il y a eu en 2003, donc en réponse au rapport sur les NBIC, il y a eu un rapport qui a été dans ce sens-là. Et ils veulent qu'on étende à la nature humaine le principe de préservation que l'écologie applique à l'environnement. Et à côté de ça, il y a les partisans d'une éthique libérale qui disent que de toute façon, c'est trop tard. Ça existe déjà. Et que de toute façon, puisqu'il y a déjà des gens qui se dopent, autant rendre tout ça légal, parce que l'illégalité, ça devient une injustice. Puisqu'il y a ceux qui, de toute façon, si c'est légal, ils le font quand même, puis ceux qui ne le font pas, donc il faut arrêter toutes les interdictions. Les interdictions, et puis l'interdiction, elle est injustifiée, puisqu'elle est purement morale. Il faut donner une réponse au vieillissement de la population. Et puis bien sûr, puisque si on ne le fait pas, il y en a d'autres qui vont le faire, donc il faut prendre sa place dans la course internationale à l'augmentation. Alors bien sûr, en maximisant les bénéfices individuels et sociaux et en minimisant les dommages de l'augmentation. Et si on regarde, on voit qu'on est aujourd'hui dans une logique de, par exemple, de médicalisation de la société et d'instrumentalisation de l'humain. Si on regarde les médicaments psychotropes qui sont utilisés par des sujets sains, on peut voir, l'autre fois j'en parlais avec une institutrice, les enfants qui prennent de la Ritaline, ce médicament qui est au départ qui a été fait pour soigner des troubles réels, maintenant il est donné à des enfants dès qu'ils sont un peu turbulents, et ben dans toutes les classes il y a des enfants qui sont sous Ritaline et tout le monde ça trouve parfaitement normal. C'est des enfants qui ne sont pas malades. Et ça nous, si on vient sur le préambule de la constitution de l'OMS en 1946, qui nous donne une définition de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Donc avec une telle définition, on voit qu'on est tous des malades en devenir, finalement, parce que qu'est-ce que c'est qu'un état de complet bien-être physique, mental et social? Ben, si on n'y est pas, on n'est pas en bonne santé. Donc ça induit une médicalisation de la sous-performance. Si on n'arrive pas à être parfait, ben, on a droit à nos petits cachets. Si on voit aussi ce qui se passe au niveau des technologies reproductives, par exemple le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire, ben on voit que ces diagnostics ils conduisent, par exemple dans le cas de la trisomie 21, à 96% d'avortement. Donc, et là, tout le monde trouve ça normal aussi. Donc on est dans un eugénisme libéral. On a une instrumentalisation des naissances qui entraîne une intolérance vis-à-vis des handicaps qui est de plus en plus croissante. En France, il y a l'association française de transhumanisme qui s'appelle Technoprog depuis 2013. Elle s'insère dans ce courant. Alors eux, ils disent qu'ils sont des transhumanistes éthiques. Donc je vous donne leur programme, donc qui s'articule en quatre points. Donc ça, c'est ce qu'ils ont écrit en 2013. Donc leurs quatre grands souhaits, c'est les libertés. Donc liberté de disposer de son corps pour les individus, les parents et les futurs parents. Donc ce qui veut dire la GPA, les substances psychoactives, etc. Au niveau de la société, ben, garantir à tous le choix de l'augmentation par la distribution de revenus universels conséquents qui va permettre à tous de pouvoir s'augmenter. Et puis, donc, ils demandent un débat et ils demandent l'universalité et la liberté d'accès à Internet pour tous. L'éducation, c'est leur premier levier avec lequel ils souhaitent agir. Donc en mettant l'accent sur la formation scientifique, le monde passé ne suffit plus, on n'a rien à faire de ces vieux trucs que sont l'histoire, le latin, le grec, la littérature, ça ne sert plus à rien. Il faut à la place mettre un questionnement transhumaniste dès le collège. Et puis distribuer à tous les enfants des interfaces numériques pour les préparer à ça. Les enfants à l'école ont des interfaces numériques, hein, ça a été distribué par l'éducation nationale. Il faut aussi préparer les seniors parce que malheureusement il y en a qui ne vont pas tenir le coup jusqu'à ce que tout ça arrive. Donc il faut quand même les consoler. Et puis il faut une amélioration morale de l'humanité. Au niveau de la tolérance, la compassion, je ne sais pas si c'est le gène de la tolérance qui sera injecté à tout le monde, mais on peut se poser la question. Et puis au niveau de la recherche, bien sûr, il faut encourager les recherches sur le vieillissement, donc financièrement, et puis une liberté totale de la recherche sur tout le domaine du vivant, c'est-à-dire une liberté totale de recherche sur les embryons humains. Et puis comme la France, il faut bien qu'elle se place quelque part, elle pourrait être la championne de l'étude de prévention des risques en ce qui concerne les NBIC, parce que forcément on saura bien mieux les appliquer que tous les autres pays. Et tout ça, ça se fait avec une certaine complaisance. Si on écoute Laurent Alexandre, qui est le fondateur du site Doctissimo, qui est richissime directeur d'une société de séquençage du génome, il nous dit, enfin lui-même est transhumaniste, il ne s'en cache pas, mais il nous dit que les transhumanistes ont gagné la bataille des cœurs sans même livrer bataille. Vous ne savez pas ce que veut dire transhumanisme et vous êtes pour le cœur artificiel. Vous serez pour la thérapie génique dans le cancer, pour la greffe d'organes et pour la rétine artificielle. Nous sommes devenus transhumanistes sans nous en rendre compte. Avec une inconscience aussi, il faut savoir que Google, qui possède des milliards, a acheté des sociétés dans toutes les technologies sur lesquelles repose le transhumanisme, qu'elle est en train de fabriquer une version numérique de notre planète, et que c'est elle qui a donc qui a fondé l'Université de la Singularité, qui est implantée en France avec un partenariat avec l'ESSEC et d'autres écoles. Si on fait un petit saut en arrière, le mot transhumaniste, il est apparu en 1957 dans la bouche de Julian Huxley, donc le frère de celui qui a écrit Le meilleur des mondes. Et Julian Huxley était un théoricien de l'eugénisme. Donc une de ses phrases qui dit en 1941 quand même, la qualité des personnes et non pas la seule quantité est ce que nous devons viser. Par conséquent, une politique concertée est nécessaire pour empêcher le flot croissant de la population de submerger tous les espoirs d'un monde meilleur. Entre les deux guerres, il faut savoir que 65 000 personnes ont été stérilisées aux USA et 400 000 en Allemagne parce qu'elles n'avaient pas de bons gènes. Et tout ça avec une caution scientifique, tout le monde trouvait ça parfaitement normal. Si on regarde comment l'eugénisme se voit, il était représenté, donc ça c'est des dessins qui remontent à cette époque, donc je ne sais pas si vous arrivez à bien lire, on voit toutes les sciences qui se rejoignent et pour conduire à la science eugénique, là, c'est une science, hein. Donc c'est comme qui est représenté comme un arbre, et je ne sais pas, ça vous rappelle peut-être quelque chose dans ce que je vous ai dit. Si on regarde nos convergences de nanotechnologie, biotechnologie, intelligence artificielle et sciences cognitives, on peut se demander à quoi ça nous conduit. Alors les transhumanistes jurent par leur grand Dieu qu'ils ne sont pas eugénistes, mais ils se rattachent quand même à un eugénisme positif, c'est-à-dire un eugénisme qui n'est pas un eugénisme de masse, c'est un eugénisme individuel. Et donc ça sert dans la lignée de Francis Galton, qui disait que l'eugénique est la science de l'amélioration des lignées, qui n'est aucunement confinée à des questions de croisement judicieux, mais qui tout particulièrement dans le cas de l'homme prend appui sur tous les facteurs susceptibles de conférer aux races, aux souches les plus convenables, une plus grande chance de prévaloir rapidement sur celles qui le sont moins. En gros, on garde que les meilleurs, quoi. Mais c'est de l'eugénisme positif. Parce qu'on ne détruit pas les autres, en fait, on améliore ceux qui l'ont. Alors, tout ça, ça engendre quand même une grande confusion. La première chose, c'est de faire croire que c'est inéluctable. Pour ça, donc, de jouer sur des effets d'annonce. Et il faut peut-être se rappeler qu'on a encore le temps et le devoir de tracer des frontières entre ce qui est possible, ce qui est faisable et ce qu'on veut faire. Et de se dire que c'est pas parce que la science connaît quelque chose, c'est pas parce qu'il y a des connaissances scientifiques, que ça va nous dire ce qu'on doit faire. C'est à nous de nous positionner sur ces questions-là. Pour vous faire sourire, juste, il y a quand même des transhumanistes qui ont fait une conférence dans une université catholique et qui, pour essayer de démontrer que c'était catho-compatible, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de traduire, mais leurs arguments, les théologiens catholiques sont des grands des défenseurs de la, enfin, qui reconnaissent la vie comme sacrée. Et ben ça, c'est, ben, nous aussi, le transhumanisme, on est pro-vie, on veut maintenir la vie, donc vous devez être d'accord avec nous. Le transhumanisme implique une amélioration continue de nous-mêmes. Mais ça, c'est tout à fait compatible avec les vues catholiques sur les vertus. Et puis, dans la Bible, après tout, la Bible est complètement neutre sur le sujet, elle n'en parle pas. Et elle rejette, elle n'est jamais dit dans la Bible que c'était interdit donc d'augmenter d'allonger nos vies. Et puis Jésus nous a dit de faire comme lui, et puis après tout, lui, il a vaincu la mort. Donc, voilà. Donc, une citation du pape Benoît XVI, donc dans l'encyclique « Sauvé dans l'espérance », qui dit, donc Francis Bacon et les adeptes du courant de pensée de l'ère moderne qu'il a inspiré, en considérant que l'homme serait racheté par la science, se trompait. Par une telle attente, on demande trop à la science. Cette sorte d'espérance est fallacieuse. La science peut contribuer beaucoup à l'humanisation du monde et de l'humanité. Cependant, elle peut aussi détruire l'homme et le monde si elle n'est pas orientée par des forces qui se trouvent hors d'elle. Ce n'est pas la science qui rachète l'homme. L'homme est racheté par l'amour. Donc il faut peut-être se poser la question, qu'est-ce qui nous rend plus humains ? Et puis se souvenir que pour nous chrétiens, l'exaltation de l'homme, elle ne vient pas de l'homme, mais elle nous est donnée par un autre.